Donc on va commencer Perek Tet. D'accord? Dans le Perek Tet, c'est une suite directe du Perek Ret. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le Perek Ret? À la fin du Perek Ret, Yaakov est assis. Voilà.
Non mais... Il va pas dire ici. C'est pas la bonne couleur. Pas...
Alors, à la fin du Perek Ret, on a expliqué, allez messieurs.
À la droite, c'est ça.
Bon.
C'est plutôt à gauche.
À la fin du Perek Ret, on a expliqué quelle est la différence entre la Teshuva Tata'a et la Teshuva Ila'a. C'est une notion très importante à se rappeler puisque ça va revenir plusieurs fois dans les chapitres qui suivent. Teshuva Tata'a, Teshuva Ila'a. Retenez bien les mots. Teshuva Tata'a, d'accord. Tat en araméen, ça veut dire en bas. Ila'a, d'accord. Ila'a, c'est le mot Elyon. Elyon en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire en haut. C'est Teshuva d'en haut. Tata'a, Ila'a. C'est un terme qui revient très souvent dans la Gemara, dans le Zohar, etc. Bon. Donc on a la Teshuva d'en bas.
Tata'a
et Ila'a. Ila'a comme Elyon. Elyon, ça veut dire en haut. La Teshuva d'en bas, la Teshuva d'en haut. C'est quoi la différence entre la Teshuva d'en bas et la Teshuva d'en haut? On a expliqué que les Tata. Ouais.
Les Tata.
Soir, ça va?
Vendredi soir,
alors, on a expliqué que c'est quoi la différence entre la Teshuva Tata'a et la Teshuva Ila'a. La Teshuva Tata'a, c'est une Teshuva qui est, on l'appelle la Teshuva d'en bas, c'est une Teshuva qui est relativement basique. Pourquoi c'est une Teshuva qui est basique? Parce qu'on a expliqué que lorsqu'on fait une Teshuva Tata'a, c'est pas une Teshuva qui est liée à la réflexion de l'homme. C'est une Teshuva dans laquelle la personne décide de mieux se comporter. Mais c'est pas forcément que dans sa tête, il a compris, il a réalisé que il est devant le pied du mur. Vous vous rappelez la notion qu'on a expliquée la semaine dernière, la semaine d'avant, devant oui. Le pied du mur. Donc une personne qui ne réalise pas qu'il est devant le pied du mur, il fait ce qu'on appelle une teshuva de bas niveau. Et on a expliqué que finalement, c'est la teshuva qu'on fait tous les jours. Tous les jours, pas seulement ça. C'est, la Gemara a dit que même les Rechaim, Chayem, Leim Haratot, que leur vie est pleine de regrets, parce que même un rachat, juste après qu'il ait fait l'Avera, il a regretté. Puisque le plaisir qu'il a eu au moment où il a fait l'Avera, c'est très rare que le plaisir en vaut le coup. Et qu'après l'Avera, d'accord, je me dis, ça valait le coup. C'est très rare. Il faut vraiment que le plaisir en vaille le coup. D'accord. En général, Gemara a dit que, Rechaim, Chayem, Leim, Haratot, que même un rachat, sa vie est pleine de regrets. Donc, mais ça, sauf que ça, c'est une Teshuva Tata'a. Pourquoi c'est une Teshuva de bas niveau? Puisque, non, ça, c'est une Teshuva de bas niveau.
Tata'a, c'est en bas.
Teshuva de bas niveau. Parce que c'est la teshuva que nous on fait tous les jours. C'est bon, tu fais une avéra, tu regrettes, j'aurais pas dû le faire. Bon, mais concrètement, je vais la refaire. Pourquoi je vais la refaire? Parce que j'ai pas réalisé que je suis, d'accord, que je suis devant le pied du, que je suis au pied du mur, que je suis bloqué. J'ai pas réalisé. Et donc ça me dérange pas vraiment. Ça me dérange, bon, j'aurais même mieux faire. Donc c'est une teshuva, mais c'est une teshuva de bas niveau. D'accord? On a expliqué que finalement, c'est une teshuva qu'on fait également aussi à Yom Kippour. C'est la teshuva de Yom Kippour aussi. C'est une teshuva de bas niveau, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que c'est une teshuva qui est limitée. C'est une teshuva dans laquelle je ne sens pas que je suis au pied du mur. Donc c'est une teshuva de bas niveau. C'est pas une teshuva qui est liée forcément à la réflexion, à l'introspection. D'accord? C'est une teshuva dans laquelle, bon, j'ai réalisé que c'est pas bien ce que j'ai fait, qu'il faudrait que je me comporte mieux, et qu'il y a bien un jour dans l'année dans laquelle il faut se poser des questions. On fait le bilan. D'accord? On fait l'inventaire. Bon! Mais pas pour autant que je vais pouvoir faire les mêmes gaffes. À la fin du 8e chapitre, on a expliqué qu'il y a une teshuva qu'on appelle la teshuva ila'a. C'est quoi la teshuva ila'a? Ça, c'est une teshuva de haut niveau. C'est quoi la teshuva de haut niveau? C'est une teshuva qui est liée à la réflexion, à l'introspection. Et c'est la notion de rachamim. Ça veut dire quoi? On a expliqué à la fin du Perek Ret que c'est une teshuva qui est liée à la réflexion. La personne va réfléchir, il va se dire comment c'est possible, où je peux aller, je vais nulle part avec la manière comment je... Il va réfléchir que, logiquement parlant, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, qu'il va nulle part. Et plus il va réaliser qu'il va nulle part qu'il est bloqué, d'accord? Donc normalement, il y a des personnes du préserve, lorsqu'ils arrivent à cette conclusion-là, ben... C'est la corde, d'accord?
La corde.
Ah oui, la corde, évidemment. Il dit, oui, d'accord. Enfin, il se laisse tomber. La corde. La corde.
Il laisse tomber.
Ben, la corde.
Oui,
c'est la corde.
C'est-à-dire qu'ils sont...
Ils comprennent pas.
Ils peuvent plus...
T'es avec nous les jeunes ou pas?
Hein? Pas là, 11h,
c'est la corde. C'est quoi la corde? Hein?
Trop tard, ça veut dire.
Les veines.
Ou les veines, bon.
Ils réalisent trop tard.
Sauf que, c'est quoi Rachamim? Au lieu de passer à la corde, tu dis non. Au contraire. Puisque je comprends que je suis bloqué, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va m'aider. Ça, c'est la teshuva ilaha. Et c'est sur ce point sur lequel on s'est arrêté. Voilà. Ça veut dire que quand je réalise, et c'est la différence d'ailleurs qu'on explique en chassidout entre atzvut, quand on avait fait un cours une fois sur ça, c'était 2 ans, je crois, entre la merirut et atzvut, entre la déprime et la tristesse, ça n'a rien à voir. Être triste de son sort et être déprimé, ça n'a rien à voir. Être déprimé, ben voilà, c'est un peu la corde. Bon, je lâche tout. Ça ne veut pas dire que la corde, il n'aura pas le courage de le faire, mais bon, il est dégoûté de la vie, il en a marre, il va tout lâcher. Ça, c'est la déprime. La tristesse, autre chose. La tristesse, ça veut dire que je suis triste d'une certaine situation et qu'au contraire, la tristesse va être l'élan, va être le moteur qui va m'aider à redémarrer, à recommencer. D'accord ? C'est exactement la notion de Rachamim. C'est que ce Baal Teshuva, la frustration qu'il a du fait qu'il a fait tellement d'averot, non seulement que cette frustration ne va pas le bloquer à faire Teshuva, au contraire, c'est elle qui va être le moteur de cette Teshuva. Parce qu'il va se dire, comment c'est possible, je suis obligé de pouvoir récupérer, comme on a raconté la semaine dernière l'histoire de Rabbi Eliezer ben Tourdeh. Très
bien. Parce que s'il y a quelqu'un qui va faire une déprime, l'autre fois, il va être triste.
Ça dépend de l'approche qu'il a. C'est aussi simple que ça.
C'est-à-dire que celui qui fait référence à Hachem, forcément, il va faire...
Celui qui est égoïste, et qui se dit, je suis perdu, et qu'il a raison, il est vraiment perdu, il n'a plus rien à faire, il va déprimer. Il a raison, il a de quoi déprimer. D'accord ? Celui-là, il va déprimer, il va tout lâcher. Alors que celui qui dit, bon, à Kadosh Baruch Hu, je suis bloqué, tu es la seule personne qui peut m'aider, là, Dieu va l'aider. Ça veut dire qu'en d'autres termes, dans la Torah, on considère que la frustration, non seulement c'est pas mauvais, mais au contraire, ça peut être le moteur d'une teshuva extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais d'accord, mais chez les goyim,
je vais bien expliquer ce que je veux dire. Non, attendez, je vais bien expliquer ce que je veux dire. Ça veut dire que, il y a des fois, aujourd'hui, on a envie de penser que c'est mieux de pas réfléchir. Lorsqu'une personne commence à poser des questions, on lui dit, écoute, pose pas trop de questions, te prends pas la tête, reste simple, tu vas commencer à te compliquer la vie, je sais pas quelle conclusion tu vas tirer.
J'en connais des comme ça,
ouais. Ça, c'est les gens qui ont peur des questions. Ça s'appelle avoir peur des questions, ça. La peur des questions, j'ai peur de me poser des questions, j'ai peur que si j'ai pas de réponse, va savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. La Torah te dit non. Qu'est-ce qui se passe ?
On est un commentateur, là.
Oui, on est un commentateur, ouais. Tout à fait Thierry. Alors.
Je posais une question juste avant, je crois que tu vas répondre. Hein.
Tout à fait Thierry. Alors.
Je pensais pas Jean-Jacques.
Comme ça il dit, hein, le commentateur, non ? Tout à fait Thierry.
Ah, ouais. Alors. Il s'appelle Thierry Roland, et l'autre c'est...
Bon, je sais pas moi, tout à fait Thierry. Non, en tout cas.
Tu connais le contexte.
Oui, mais tout à fait Thierry.
Il est toujours dans le match.
Non, je ne rappelle pas, on me l'a raconté tout à fait Thierry. Moi,
Non, je disais qu'il y a des goyims qui se suicident.
Oui, bien sûr. Donc, je répète, mais j'ai pas fini ma ligne, ce que je voulais expliquer, parce que c'est très important, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. C'est que dans la Torah, on considère que la frustration n'est pas forcément quelque chose de négatif. Être frustré, et Rav Tov, bonsoir. Et être frustré, ça veut pas dire forcément quelque chose de négatif. Je peux être frustré, mais la frustration va être le moteur, c'est ça ce qui va me pousser à décider de recommencer. Vous avez des gens que lorsqu'ils prennent des claques, ils vont déplacer des montagnes. Parce que ça dépend qu'est-ce que tu en fais.
C'est un tremplin.
Ça dépend, ça veut dire comme ça. On avait expliqué dans le chapitre, si je me trompe pas, c'était chapitre 28 ou 29 du Tanya. Ça fait déjà longtemps, ça fait déjà 2 ans. On avait expliqué que, de manière générale, dans la chassidoute, on déconseille fortement la tristesse, même la tristesse. Parce que le piège du Yetzara, c'est que Yetzara, il te fait croire que tu es triste sur ton sort, et concrètement, il va te faire tomber dans la déprime. Et quand on est tombé dans la déprime, le Yetzara, il fait ce qu'il veut de nous. C'est un principe. C'est un principe qui marche bien même dans les affaires. Rien qui est déprimé, c'est un zombie, on fait ce qu'on veut de lui. D'accord ? C'est fini. Une fois qu'on a réussi à déprimer quelqu'un, on fait ce qu'on veut de lui. Le Yetzara, il fait la même chose avec nous. Donc, rentrer dans le piège du Yetzara, je suis triste de mes avérotes, et c'est bien d'être triste de mes avérotes, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que de la tristesse, on peut tomber dans la déprime, et la déprime,
dans le sommeil.
C'est très difficile de s'en relever. D'accord? Mais, avait expliqué à Edmour Hazaken dans le chapitre, je crois que c'était 28 ou 29, il avait dit là-bas dans le chapitre 29, il avait dit qu'il faut savoir que si une personne de toutes les façons est déjà triste, vous savez, des fois on se lève, on a le coup de blues comme ça, on n'est pas bien.
Oh.
Alors, on va pas être interdit, c'est déjà le cas. Alors justement, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, bon, si tu as déjà le coup de blues, alors au moins, essaie d'utiliser ce sentiment en bien. Ça veut dire, au moins, essaie de te dire, bon, je vais casser la baraque, je vais renverser la situation. Ah, là au moins, t'as tiré quelque chose de bien. Sinon, on tombe dans la déprime. Et c'est ce qu'il va expliquer ici. C'est ça la teshuva ilaha. Teshuva ilaha, c'est quoi? C'est lorsque le Baal teshuva, ça arrive très rarement, mais lorsque le Baal teshuva, à un certain moment de sa vie, il a une frustration énorme de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Je dis, comment on peut passer 30 années, 40 années, 20 ans de ma vie, je les ai perdus. Il est frustré, il est dégoûté. Il peut être déprimé à ce moment-là. Sauf que s'il est intelligent, il va utiliser cette frustration pour être le moteur de cet échouage. Il va faire un échouage extraordinaire.
C'est un passage obligé, ça. Il est plutôt optimiste pour les années qui sont à venir.
Non, c'est pas seulement optimiste. Là, on parle pas d'optimisme. C'est qu'il va se dire, je peux changer. Je peux tout changer. C'est exactement, quand on dit la Gemara, c'est exactement le même sentiment que Rabbi Elazar ben Ourdaïa a eu. Enfin, je sais pas si vous connaissez, enfin, j'ai pas raconté toute la dernière fois l'histoire dans tous les détails. Rabbi Elazar ben Ourdaïa, enfin, il s'appelait Elazar ben Ourdaïa, on dit que, il n'y avait pas une prostituée du Moyen-Orient qu'il connaissait pas. Voilà.
Et le Moyen-Orient était grand.
Il faut le faire, hein. Oui, pas que Israël, hein, tout le Babylonie, tout. Il n'y a pas une qui connaissait pas. Faut le faire. D'accord? Et une fois, qu'est-ce qu'elle raconte la Gemara là-bas? La Gemara là-bas elle raconte que, une fois, il a appris qu'il y avait une prostituée qu'il connaissait pas encore. Donc il a fait la route pour aller la voir. Imaginez-vous ce qu'il a dans sa tête.
Quand tu dis prostituée, c'est une femme, c'est pas une prostituée, c'est une femme.
Non, c'est une...
Il a pas payé cette femme.
Quoi?
Il ne l'a pas payé.
Bon, c'est prostituée, c'est Zona, la Gemara dit Zona.
Oui, parce que...
Bah, c'est une Zona, bon. Quoi qu'il en soit, payé ou pas payé.
Non, parce que c'était Casanova, c'était un Casanova, c'était pas...
Alors, quoi qu'il en soit, d'accord.
Il allait pas...
Donc, Eliezer Ben Ourdaïa, Eliezer Ben Ourdaïa, c'est Dieu hybride. Allez, messieurs.
Non, mais c'est important.
Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Écoutez bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, donc il a fait la route, d'accord? Il a fait une route pour aller voir cette femme. Et lorsqu'il arrive, d'accord, apparemment, ils avaient dû déjà commencer, cette femme lui sort comme ça, elle lui sort à un moment, elle lui dit, je pense qu'il y a des gens qui pourront jamais faire tes choux. Hein. Elle lui balance comme ça. Lui, il a tout arrêté. Et ça l'a marqué. Il dit quoi? Elle lui dit comme ça. Elle lui dit, je pense qu'il y a des gens qui pourront jamais faire tes chouvas. Ça l'a marqué. Et bon, après, il y a toute l'histoire comme on l'a raconté la semaine dernière. Il a fait appel aux montagnes, il a fait appel, etc. Jusqu'à qu'il a compris que qui pouvait faire tes chouvas, c'est que lui. Ça dépend de lui. Il a fait appel à tout le monde. Jusqu'à qu'il a compris que personne pouvait l'aider, qu'il était la seule personne à pouvoir s'aider. Là, on a un vrai exemple d'une personne qui avait une frustration énorme. Puisqu'il sait ce qu'il a fait dans sa vie. C'est pas un imbécile. Il sait ce qu'il a fait dans sa vie. Il avait une frustration, et que la frustration était le moteur de cet échouva. Qu'il a fait une échouva tellement forte que sa neshama est partie. Et qu'il est devenu de Eliezer Ben Ourdaïa, le coureur de jupons, il est devenu Rabbi Eliezer Ben Ourdaïa. D'accord? On va dire coureur de jupons. Putain. Il est devenu Rabbi Eliezer Ben Ourdaïa. Là, on a un vrai exemple d'une personne qui aurait pu se jeter de la montagne. Lorsqu'il entend ça. Et puis il dit, bon, je suis foutu, excusez-moi du terme. Je pourrai jamais faire teshuva, donc c'est fini, je me suicide. Non, il s'est pas suicidé. Il a utilisé la frustration pour faire teshuva. Si lui, il l'a fait, nous aussi, on peut le faire.
Il a tout gagné.
D'accord.
Non, il nous manque des éléments, parce que, autrement, et le moment où il a cette frustration.
On peut pas compter sur ça. Oui, j'ai compris, bon, je voulais pas percuter.
Qu'est-ce qui se passe, toi? Il s'est passé quelque chose sur le plan psychologique, il s'est passé quelque chose de quoi?
On va répéter à ta femme, hein.
On dit toujours je rigole et puis qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est bizarre cette histoire.
Quoi?
Qu'est-ce qui s'est passé que à ce moment-là ça percutait, je veux dire.
Ben, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, constamment, il se disait bon, ça va, je fais ce que je veux, mais un jour si je veux, je peux revenir. Voilà. C'est que oui. C'est ça, le piège du Yetzara, c'est qu'Yetzara te dit, bon, c'est pas grave, au pire, tu fais vas-y, éclate-toi un peu, après tu reviens. Ouais. Et ça, c'est toujours, t'inquiète pas, quand tu veux, tu reviens.
Ouais, jamais que tu reviens.
T'es jamais perdu. T'es pas perdu. Ça t'es repère.
Il y en a combien qui reviennent?
Sauf qu'on revient pas, bien sûr qu'on revient pas. Ça, le piège. Ça, le Yetzara. Le Yetzara, il te dit, t'inquiète pas, tu peux grossir, tu pourras maigrir après. C'est la même chose, mais bon, c'est un peu différent.
Sauf si t'as redéfini. D'accord?
Eh oui. Non, mais c'est ça le piège du Yetzara. Tu dis, t'inquiète pas, mange, tu pourras maigrir après. C'est la même chose. Ça, c'est le piège du Yetzarara.
C'est ce qu'il dit dans le Père Kavot. Une bonne action amène une bonne action, une mauvaise action.
Exactement. D'accord. Parce qu'après, on rentre dans un cercle, on ne peut plus en sortir.
Elle lui a dit ça. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans sa tête et... Parce qu'elle avait certainement un pouvoir spécial, cette fille.
À ce moment-là, il a une frustration terrible. Non, je pense pas, non.
C'est comme la naisse de Bilram.
C'est la goutte qui a fait déborder le verre.
Oui, non, c'est pas la goutte qui a fait déborder. C'est que des fois, on te répète quelque chose 10 fois, mais tu l'entends pas, tu comprends pas. Des fois, ta femme, elle te répète la même chose 10 fois. Et c'est seulement au bout de la dixième fois que tu percutes. Qu'est-ce qu'elle voulait dire?
Peut-être qu'il est
arrivé. Jacob, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle.
Il a un point seulement bas aussi qui a plus 10.
Elle te répète 10 fois, mais tu percutes pas.
Non,
d'accord.
Je lui dis arrête, elle me dit quoi? On peut pas te répéter plusieurs fois?
Tant qu'il a pas atteint ce niveau très très bas, il pouvait pas remonter.
Non, pas spécialement, c'est qu'il a pas réalisé. Là, il a réalisé. Bon, maintenant qu'on a fait cette introduction, on va commencer le Perek Tet, chapitre 9. D'accord? Ou Biur Ha'inyan. L'explication du sujet. Donc on va essayer de développer un peu plus cette fameuse Teshuvah il a. Cette Teshuvah, vous avez le Perek Tet,
il a donc d'en haut.
C'est quelle page? 196.
Il a
la Teshuvah d'en haut. Il a un. Hein, ça veut dire quoi? Il a un. La Teshuvah d'en haut. C'est-à-dire la Teshuvah qui est liée à la réflexion.
Non.
C'est une Teshuvah qui est très longue, qui prend du temps. Mais qui est liée à la réflexion. Biura Inyan, Kemosh, Ketu, Bezoar, Akadosh, comme c'est écrit dans le Zohar. Vetikunim, ainsi que dans les Tikkun et Zohar. C'est une autre section du Zohar. Bekama Mekomot, dans plusieurs endroits. C'est-à-dire c'est écrit dans plusieurs endroits. C'est pas dans un endroit, dans deux endroits, c'est écrit c'est fréquemment. Des bina i tshuva ila. La réponse, la clé de la réponse pour expliquer qu'est-ce que c'est cette fameuse tshuva ila et comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours, c'est le Zohar qui nous l'explique. Le Zohar il nous dit que c'est quoi tshuva ila? Tshuva ila c'est bina. Tshuva ila, cette fameuse tshuva suprême, cette tshuva extraordinaire, c'est lié à bina. C'est quoi bina?
On devrait penser que c'est d'accord.
D'accord. Deux secondes. C'est quoi bina?
Intelligence.
Quoi bina? On a chorma et bina. Chorma c'est la capacité d'avoir des idées et bina, d'accord. Bina c'est quoi?
Le développement.
Bina, c'est le développement. On l'a expliqué plusieurs fois qu'entre les hommes et les femmes, les hommes sont
Chorma,
sont très forts pour avoir des idées, et les femmes sont très fortes pour Bina. Ça veut dire que pour Teshuvah Ila, c'est la femme. Les femmes, pour ça, elles sont très fortes. Pour réaliser. Au quart de tour, elle t'a réalisé ce qui s'est passé. Elle a compris tout de suite. Je dis pas que moi j'ai trouvé l'idée. D'accord? Mais elle, après, elle va réaliser, elle va comprendre tout de suite tous les détails, elle a tout compris. Et elle a réalisé. Ça, c'est la Teshuvah Ila. Le fait de réaliser, de comprendre ce qui se passe.
Mais où c'est le côté féminin de l'homme?
Oui, sûr, c'est le côté féminin de l'homme. Alors, il continue. Il dit, le verset, d'accord? C'est? Ah, bien sûr. C'est écrit, non, sinon on a besoin de nos femmes. Ve'em rovetzet ala efrochim. Ve'em rovetzet ala efrochim. Donc, le verset, il dit dans la mitzvah de Shilu Haken. La mitzvah de Shilu Haken, quand on lui dit qu'on doit renvoyer. C'est quoi la de Shilu Haken?
Envoyer les tourtereaux.
Alors, c'est quoi le cas? Comment la Torah présente le cas?
Alors, si tu vois, si tu marches.
Si tu marches dans la rue.
Et que tu
d'accord. Et que se présente devant toi un nid d'oiseau. Et V.A.M. Rovetset à la Ephrochim. Et la mère.
Recouvre.
D'accord. Recouvre et accroupie sur à Ephrochim. Sur les petits oiseaux. Sur les poussins. D'accord. Quel est le din? Et que. Enfin, ce qui est le non dit, c'est quoi? C'est que j'ai envie de prendre.
Les œufs.
Chaler teshalach et ta'em, vetabanim tikachlar. Tu devras renvoyer la mère et les enfants, tu les prendras. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, V'a'em rovetzet ala efrochim. Il dit, quand on nous parle de la mitzvah, dans cette mitzvah, on nous dit que la mère rovetzet ala efrochim, que la mère est accroupie sur les poussins, elle couvre les poussins, d'accord? C'est qui les poussins? C'est qui les poussins?
C'est qui les poussins?
C'est qui les poussins et c'est qui la mère? Alors écoutez bien ce qu'explique le Zohar. Le Zohar dit que c'est qui les poussins? Les poussins, c'est tous les sentiments qui vont naître de notre réflexion. Donc ça veut dire notre comportement. Parce que c'est ça, finalement, qu'est-ce qui remplit notre vie de tous les jours? C'est un comportement. On a des comportements positifs, des comportements négatifs. C'est plein de petits poussins. D'accord? Plein de petits poussins. T'as des bons poussins, des mauvais poussins. Qui c'est qui va couver ces poussins? C'est la mère. C'est qui la mère? D'accord? La mère, c'est quoi? La mère, c'est Bina. C'est la réflexion. Et après, il va expliquer c'est quoi la méthode de Shilu Haken, quand on dit qu'il faut renvoyer la mère. Alors je lis d'abord dans les mots.
On a dit que les poussins c'est la réflexion.
Non.
Non.
Les poussins c'est le résultat.
Les actions.
La mère c'est Bina, c'est la réflexion. C'est le fait de prendre le temps de réfléchir, de réaliser. Donc il explique comme ça. Daïnou ça veut dire. Chaliédé, Shemit Bonen, Bigdoulat Hashem. Par le fait qu'une personne va réaliser Bigdoulat Hashem dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Be'amakat Adan. En s'approfondissant. C'est ça, Bina. Bina, c'est s'approfondir. D'accord? On essaie de comprendre. Ou molid, meruar binato, trilou, ou chimou, sikhliim. Et que, à force de réfléchir, il va faire naître, d'accord, dans son cerveau, un amour et une crainte, mais un amour et une crainte qui n'est pas encore sentimental. Enfin, un amour et une crainte qui est encore, on va dire,
conceptuel.
Conceptuel ou idéologique. Ça veut dire qu'on a, intellectuel. Non, mais j'ai pas envie de traduire intellectuel. C'est un amour idéal, par exemple. Ça veut dire que t'as une personne que, voilà, il va réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire aimer. Il va réfléchir à qu'est-ce que la personne peut lui amener. Et il va se mettre à rêver, idéaliser. Il va se mettre à rêver d'un amour idéal. C'est ce qu'on appelle, en araméen, trilou ou chimou sikhlin. Un amour et une crainte. Comment il a été traduit ici? Intellectuel. Intellectuel, ça veut dire, c'est dans la tête. On a simplement conceptualisé, si vous voulez. Bon, d'accord. Oui.
On le dit dans le livre.
Chez Moroutirou, Trilou, Chimou, mais c'est pas Sikhil là-bas. D'accord.
C'est pas ça.
Non. Alors, Ubituf Ta'am Vedat. Et donc, on a un développement. Et là, on nous raconte le développement qui va se passer chez le Baal Teshuvah. Cette fameuse mère. C'est ça le Baal Teshuvah. Le chidouche du Baal Teshuvah, c'est que le Baal Teshuvah, il va avoir une mère qui va couver des poussins. C'est quoi les poussins? Ben, les poussins, c'est toutes les bizotes qu'il va se retrouver à faire par la suite. Très important à comprendre ça. Parce que les gens pensent que tant qu'on commence pas à faire des mitzvot, ça n'a rien de faire teshuva. Rien te dit le Morazaké, tu dis non. C'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. D'accord? Quand tu fais teshuva, la teshuva c'est la mère. Et une fois que la mère est en bonne santé, elle peut couver autant de poussins que tu veux. C'est quoi les poussins? Les poussins, c'est le comportement. C'est ce qui va naître. C'est les mitzvot qu'on va faire par la suite. On peut avoir un comportement positif comme on peut avoir un comportement négatif. Si la mère n'est pas en bonne santé, d'accord? Même si on commence à faire des mitzvot, si la mère n'est pas en bonne santé, ben forcément la mère va continuer à couver des poussins négatifs. Donc on n'a rien compris. C'est quoi une teshuva ilaha? D'accord? Très simple. La teshuva ilaha, c'est quoi?
Pas le Baal teshuva.
Le Baal teshuva, il a un certain moment dans lequel il doit réaliser. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il réalise? Ben, c'est très simple. Lorsqu'il a réalisé qu'il doit faire teshuva et que ça ne va pas bien pour lui, il va créer la mère. Une mère qui va couver des poussins. Qui ne sont pas encore là. Ces poussins ne sont pas encore là. On est d'accord? C'est avec nous, Zérard? Il va couver des poussins, les poussins ne sont pas encore là. Mais il y a la mère qui est là. Une fois que la mère est là, bah après on aura des enfants. Keinyan Shenemar, comme c'est écrit, Le'ava et Hashem Elokecha, pour aimer Hashem ton Dieu, Mishum, pourquoi je dois aimer Hashem mon Dieu? Ki hu chayecha, parce que c'est lui ta vie. Alors ça c'est un verset dans Nitzavim. Qu'est-ce que c'est le verset dans Nitzavim? Il dit... Dieu, Moshe Rabbeinu demande de Béni Israël et dit, je vous demande d'aimer Hachem, donc je te demande d'aimer Hachem ton Dieu, d'accord, qui ou chayecha, car il est ta vie. Quel rapport? Pourquoi je dois l'aimer parce qu'il est ma vie? Ce qu'il veut expliquer ici. D'accord. C'est que, ça c'est justement, la notion de la mère. Qu'est-ce qui se passe chez le Baal Teshuvah à ce moment-là? Très important à comprendre ça. C'est que le Baal Teshuvah, à un certain moment, il va comprendre que sa vraie vie n'est pas toutes les bêtises qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est pas ça, sa vraie vie. D'accord. Je ne dis pas qu'il va tout d'un coup devenir ultra religieux, ultra orthodoxe. J'ai pas dit ça. D'accord. Non, c'est une erreur. Parce que là, il va se casser la figure. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a compris que sa mère, ça veut dire que quelle est sa vraie vie? Sa vraie vie dorénavant, c'est Torah et Mitzvot. C'est ça son centre d'intérêt. D'accord. Je dis pas que du jour au lendemain, il va tout arrêter. Non. C'est très important à comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que tant qu'on n'a pas tout lâché, la Averot. Tant qu'on n'a pas tout lâché de notre mode de vie, on n'a pas fait teshuva. C'est une erreur totale. Comme une erreur phénoménale. C'est ce qui est en train d'expliquer ici, le droit à Zaken. D'accord? Comment il faut réfléchir? Il faut réfléchir comme ça. Il faut dire que non. Le plus important, c'est de décider que ma vie change. De décider que maintenant, ma mère est nouvelle. C'est-à-dire que de décider que dorénavant, je vais essayer de générer des bons sentiments. Je dis pas qu'on va tout changer les poussins. Il y a plein de petits poussins, ils sont là déjà. D'accord? Ça veut dire que je vis déjà dans une vie, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, etc. On peut pas tout changer du jour au lendemain. Il y a des poussins qui sont déjà là. D'accord? Donc on va pas tout casser. C'est pas ça ce qu'on te demande. Par contre, ce qu'on te demande, c'est de changer la mère. Et une fois qu'on a changé la source, après, progressivement, la mère va donner naissance à de nouveaux poussins. Elle va couver les poussins. Et après, progressivement, c'est
changé. La source.
C'est la mère. C'est le cerveau. Tout est dans la tête. Ça veut dire réaliser. Ça veut dire comme ça. D'accord? C'est très important à comprendre ça. Quand on demande à quelqu'un à faire teshuva, on lui demande pas de faire teshuva sur 613 mitzvot. C'est pas ça ce qu'on lui demande. On lui demande de faire teshuva sur un élément. Sur le fait qu'il doit réaliser que c'est quoi ma vie? C'est la Torah. D'accord? Je dis pas que sa vie va changer tout de suite, parce que il dit ma vie c'est la Torah, mais j'ai une famille, mais je suis pas encore prêt, mais etc., mais j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes collègues, bon. Mais il a déjà compris. D'accord.
Comprendre une chose comme ça.
Comment il peut?
Il a compris une chose comme ça.
Qu'il en est conscient, je comprends, mais qu'il le comprenne intellectuellement, c'est difficile à admettre.
Il ne comprend pas, il le réalise.
Ah, Oui, il comprend.
Ah oui, c'est encore plus fort.
C'est pas pareil.
C'est réel, il le voit, c'est tellement clair devant lui, il comprend que la solution est dans la Torah. Il comprend, il est venu à un cours de Torah, il a eu un déclic, il a compris que la solution est dans la Torah. Je dis pas qu'il est venu ultra religieux.
Non mais comprendre c'est ta différents paramètres et puis ton intelligence te fait dire
il a compris que oui.
Ce qui était essentiel pour lui à un moment donné, il a changé de référence.
Mais encore une fois, je répète, c'est ce qu'on expliquait, c'est ce que j'ai dit qu'on allait s'arrêter sur ça la semaine dernière. J'ai dit que comment on peut retrouver cette fameuse Ahavaïla, cette Teshuvah suprême, cette Teshuvah extraordinaire, comment on peut la retrouver dans la vie de tous les jours? C'est très simple, voilà comment on peut la retrouver. C'est lorsqu'on essaye de réfléchir et de comprendre que ma vie c'est la Torah. Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails de dire il y a ce détail. Ça c'est déjà les poussins. Est-ce qu'on est... Vous êtes avec moi ou pas?
Non mais grave avec toi.
D'accord. Ça c'est des poussins déjà. D'accord. Oui, c'est pareil. C'est pas parce qu'un certain jour ou une certaine mitzvah je ne fais pas encore, que ça veut dire que je n'ai pas fait teshuvah. C'est une erreur. Parce que la teshuvah n'est pas dans les actes, la teshuvah est dans la tête.
Pas de sens.
D'accord. Une fois que ma tête est saine et que dans ma tête j'ai décidé que ma vie c'est la Torah, mais que il me faut du temps pour couver les poussins, j'ai fait teshuvah. Ça y est, je suis en plein dedans.
Réaliser c'est la teshuvah d'en bas.
Non.
Non. C'est regretter la teshuvah.
La teshuvah d'en bas c'est regretter, mais sans forcément réaliser.
Réaliser justement.
C'est comme le rachat.
Parce que si on réalise que notre vie finalement c'est Torah,
oui.
Ça suffit pas de réaliser.
C'est réel. Une fois que tu réalises que ta vie c'est Torah mitzvot,
ouais, d'accord.
Et que, non, attention, tu réalises, ça veut dire que tu te dis, à terme, il faut que ma vie ce soit uniquement Torah Mitzvot. Donc, t'es une mère. La mère est là. Maintenant, il faut couver les poussins. Alors, les poussins sont déjà là, c'est le problème. Voilà, les poussins sont
pas,
déjà là.
Tu peux pas renier tes poussins.
Alors, justement, là, il va nous expliquer.
D'accord, ah bah oui. Alors, tu peux pas renier, tu peux pas tout zapper. Tu peux pas dire, ça y est, on fait tes chouvas, on zappe tout, on divorce, c'est fini. On a rien compris, sinon. C'est pas de sa faute, t'as fait tes chouvas. Pas mal. Alors, d'accord. Ah oui, c'est ça, ils sont déchaînés.
Pourtant, c'est
ça. Non, mais c'est...
Je pense que c'est Yves qui a sorti sa première
balle. Ouais, ça fait rien.
Il a tout gagné.
J'ai une masse aussi poule. C'est la catégorie poule.
Voilà, vous avez plein de
poules.
On a très bien
fait le poule. Non, mais on sent le poule, oui, le poule.
Poule d'impression. Moi, j'avais compris.
Est-ce qu'encore plus extraordinaire, c'est que tu arrives à parler de ça, alors que toi, c'est un truc qui n'est jamais arrivé.
Alors,
c'est pas ton truc ça.
Vélo Dailo, Beava Tivit.
On comprend, mais
ça veut dire quoi? Moi je lis. Alors, Vélo Dailo. Donc, j'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Leava et Hashem Elokecha qui hu chayecha. Que pourquoi j'aime Hashem? C'est extraordinaire. Écoutez bien les mots de que Moshe Rabbeinu nous dit. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit Leava et Hashem Elokecha, aimer Hashem ton Dieu. Pourquoi tu vas l'aimer? Qui hu chayecha, car il est ta vie. Extraordinaire.
C'est ça.
Je répète. Tu vas aimer Hachem ton Dieu. Pourquoi j'aime Hachem mon Dieu? Pas parce que je dois l'aimer. Non. Ça, c'est tes chevaux d'en bas, ça. Je l'aime parce que je suis obligé, j'ai pas le choix. Bon. Parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de l'aimer. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ma femme, je suis obligé de me... Non, c'est pas ça.
T'as réalisé...
C'est qui hu chayecha. Parce que je réalise que c'est ma vie. Et que, c'est la même chose dans le mariage. Excusez-moi, c'est exactement la même chose.
C'est-à-dire?
D'accord? C'est exactement la même chose. C'est que pourquoi une personne aime sa femme? Pourquoi il aime sa femme? Oui, non, mais c'est vrai. Pourquoi il aime sa femme? Est-ce que c'est parce que il aime sa femme parce que bon, c'est comme ça, parce que
elle fait bien la cuisine,
parce que bon, elle fait bien la cuisine, parce que etc. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Il aime parce que c'est normal, parce qu'un homme, forcément est attiré par sa femme, donc il aime sa femme. Bon, pourquoi pas, d'accord? Mais il y a un niveau qui est encore plus fort que ça. Parce que ça, forcément, ça va s'estomper avec le temps, ce premier niveau. C'est sûr que ça va s'estomper avec le temps. Il y a un niveau qui est plus fort que ça. Pourquoi Léa va? Pourquoi il va aimer sa femme? Parce que sa femme, c'est sa vie.
Quelle est sa vie?
Parce que c'est avec elle que j'irai jusqu'à la fin de mes jours, donc c'est ma vie.
C'est un niveau, ça, déjà.
C'est-à-dire que ma vie a démarré avec elle, et elle terminera avec elle. C'est pas qu'il y a un jour, il y aura une pause. Il n'y a pas de pause. Et une fois qu'on a percuté ça, qu'elle fait partie intégrante de ma vie, et qu'il n'y a pas moi et elle, c'est nous deux.
Ça se fait ça.
D'accord. Kihu chayecha.
C'est un niveau.
Kihu chayecha, c'est ma vie. Ça, c'est à ce moment-là, on peut parler... D'accord, on peut parler d'une teshuvah ilaha, on peut parler d'un amour également, un amour suprême. C'est la même chose avec le Kadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que mon comportement est parfait, on n'est pas en train de dire ça. D'accord? On parle d'un moment dans lequel la personne réalise que ma vie continuera uniquement avec le Kadosh Baruch Hu. C'est comme sa femme, il réalise que ça y est, c'est pas que si je veux je divorce, il n'y a pas, c'est jusqu'à la mort on ira ensemble, on marchera. Donc elle fait partie de ma vie. Donc c'est plus elle et moi, c'est nous deux. D'accord ? À la vie, à la mort, qui pleuve, qui naît, qui vente. On sera toujours ensemble. Donc c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi j'aime Akadosh Baruch Hu ? Pas parce que j'ai envie de l'aimer. Qui hu chayera car il est ma vie. Alors écoutez bien ce qu'il a de Morazaken. Il dit que, c'est quoi le chidouche ici ? Le chidouche est très simple. C'est que quoi qu'il en soit, même un juif qui se dit pas religieux, de toutes les façons il aime Akadosh Baruch Hu. Même si Akadosh Baruch Hu n'est
pas...
Même si Akadosh Baruch Hu n'est pas sa vie, de toutes les façons il aime Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le chidouche ? Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous demande ? Il dit... N'aimez pas Akadosh Baruch Hu seulement parce qu'au fond de vous, vous l'aimez, c'est parce que c'est comme ça que vous avez été éduqué ou parce que votre Neshama vous pousse au fond de vous à l'aimer. Non. Aimez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi aimer Akadosh Baruch Hu ? Parce que c'est votre vie. C'est exactement comme j'ai expliqué dans le mariage. N'aimez pas votre femme parce que c'est comme ça, parce que les hommes sont tirés vers les femmes et vice-versa. Non. Ki hu chayecha. Parce que c'est ta vie. Parce que tu réalises qu'il n'y a nulle part où aller. C'est ma vie. Et c'est ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu Bnei Israël, avant de partir. Il n'a pas racheté sa vie, c'est juste avant de partir de ce monde. C'est les dernières heures, les dernières heures de Moshe Rabbeinu ici-bas. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël? Il leur dit, n'aimez pas Akadosh Baruch Hu seulement parce que c'est inné en vous, et que vous devez l'aimer, donc vous allez l'aimer. Non. Aimez Akadosh Baruch Hu parce que vous devez réaliser que c'est votre vie. Et donc, vous n'avez pas d'autre option, donc c'est, vous allez l'aimer pas parce que c'est naturel de l'aimer. Vous allez l'aimer parce que c'est votre vie. Et parce que c'est avec lui que vous allez faire la route. Donc c'est la mère qui va couvrir les poussins. D'accord ? Ki hu chayecha.
On n'est pas là pour commenter le pasouk, mais on aurait dû dire le hava et Hashem Elokecha, ki hu chayecha. Qu'est-ce que vient nous ramener
Non, le verset il dit le hava et Hashem Elokecha, ki hu chayecha. Et l'Admor HaZaken il rajoute le mot mishum pour nous expliquer.
C'est sûr.
Il dit que pourquoi je dois aimer Hashem ton Dieu ? Mishum ki hu chayecha. Que là c'est un nouveau niveau. Pourquoi j'aime Akadosh Baruch Hu ? Pas parce que, comme il dit ici, Velo Dailo Be'avat Ivit Amsuteret Levad. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, dans les dernières heures de sa vie, lorsqu'il s'adresse au Bnei Israël, il leur dit, n'aimez pas Akadosh Baruch Hu seulement par un amour naturel. Qu'on est les juifs, on est croyants, fils de croyants, et qu'on croit en Akadosh Baruch Hu parce que c'est comme ça. C'est déjà un niveau. Ça, c'est le niveau de la Teshuva d'en bas. C'est l'amour d'en bas. J'exige de vous plus que ça. Que vous devez réaliser qu'à Kadosh Baruch Hu, vous serez côte à côte avec lui jusqu'à la fin de vos jours. Ki hu chayecha, c'est ta vie. Et lorsque je réalise qu'une chose c'est ma vie, et qu'il ne me lâchera plus, et que je ne lâchera plus, d'accord ? Alors à ce moment-là, il y a deux options possibles. Soit je suis dégoûté, et que je vais le haïr jusqu'à la fin de mes jours, soit je vais l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Il y a deux options possibles. D'accord ? Bah oui. Lorsque à un moment tu réalises que bon, que ça, c'est pas parti pour changer, et que ça sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Je suis prisonnier. Bah il y a deux options possibles. Soit tu vas le détester, Chas v'shalom. Soit tu vas l'aimer. Et qu'est-ce qu'il dit, moi, le Moshe Rabbeinu Bnei Israël ? Il dit, réalisez que vous êtes avec Akadosh Baruch Hu et qu'il vous aime. Donc aimez-le vous aussi. Mais pas parce que aimez-le parce que c'est inné en vous. Non. Aimez-le parce que c'est votre vie. Il fait partie intégrante de votre vie. De la même manière que vous aimez, que vous aimez vos enfants, que vous aimez votre famille. Parce que, pourquoi on aime nos enfants ? Pourquoi on aime notre famille ? Pourquoi on les aime ? Parce que ça fait partie de ma vie. C'est moi. Ça fait partie intégrante de moi. Je peux pas m'en séparer. De la même manière, aimer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un autre niveau. C'est lorsque la personne qui fait Teshuvah, va réaliser que je ne peux pas me détacher de Dieu. Et que Dieu doit obligatoirement faire partie de ma vie. Son comportement n'a pas encore changé. Mais il percute. Il percute que Dieu doit faire partie de ma vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il percute à un certain moment que Dieu doit obligatoirement faire partie de ma vie. Qui hu chayecha. Lorsqu'il a réussi à percuter ça, il a tout compris.
Je ne vois pas alors. Si tu dis qu'à un moment donné, il réalise... qu'il peut pas faire autrement.
Oui.
C'est petit. Parce que ça veut dire quelque part il peut pas faire autrement. Il est obligé donc il vit avec.
Non.
Ce qu'il réalise la personne à ce moment-là, c'est que en dehors de Dieu il n'y a pas de sens à la vie.
Mais oui, c'est ça.
Mais non, mais c'est pas pareil. J'arrive au pied du mur et je vois bien que en dehors de Dieu je peux rien faire sans Dieu. Donc je dis bon, mais tant qu'à faire autant que je l'aime, c'est une chose, d'accord. Mais réaliser que Dieu c'est la vie en elle-même.
Mais oui.
C'est deux choses différentes.
C'est pas deux choses différentes, ça revient au même. Parce que dans les deux, c'est suite à une introspection.
Oui.
À une réflexion.
Oui.
D'accord ? Et la personne va réaliser, va percuter quelque chose. Donc, dans le cas de la Teshuvah, extrême, Rabbi Elazar ben Dourdaïa, il a percuté, waouh ! Il a percuté qu'il est au pied du mur. Maintenant, ça c'est, on peut pas l'avoir tous les jours, ça. Par contre, ce que l'Admor HaZaken nous dit ici, ça on peut l'avoir tous les jours. Ça, ce que le Morazakan dit, on peut l'avoir tous les jours. Réaliser au fait que Dieu c'est ma vie, que ça fait partie intégrante de ma vie, que je ne dois pas m'en détacher. C'est quelque chose de très important, ça, parce qu'une fois qu'une personne a réalisé ça, après c'est la mère qui va couver des poussins. Une fois qu'une personne a ça, après c'est fini, le reste y suit. Même si sa vie n'a pas encore changé, elle va changer, c'est sûr qu'elle va changer. Parce que la base est bonne. Une fois que la base est bonne, le reste va suivre. C'est la mère qui va couver les poussins, c'est ce qu'il dit Salomon Razaken. Ça veut dire que c'est pas que j'aime Dieu parce que je dois aimer Dieu. Non. J'aime Dieu parce que j'ai compris que c'est ma vie et que ça doit être ma vie.
Voilà. C'est pas la
d'accord
chose de dire ça que de dire qu'il a dit qu'il ne peut pas faire autrement.
J'ai compris ce que je veux te dire, mais ça change pas, c'est la même chose. Les deux sont liés à une introspection.
Si tu veux te réaliser, il faut que tu passes par là.
Non mais attends, dire il ne peut pas faire autrement, c'est pas forcément négatif.
Négatif, oui.
Mais si, mais c'est intéressé.
Non, non, pas,
non
du tout.
Pas du tout.
Bah si.
Pas du tout, il a raison.
Mais dire je ne peux pas faire autrement, c'est ma voix, c'est, voilà, je ne peux pas même...
C'est-à-dire que je voudrais dire.
Non.
Je ne peux pas faire autrement.
Il peut faire autrement.
Il regrette.
Mais attends, c'est-à-dire qu'il ne peut pas. Il peut. Et tout le monde le fait autour de lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas.
Il ne peut pas parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas.
Pourquoi il n'a rien vu du tout.
Mais si,
il a pas du tout. Il a rien vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a des gens autour de lui qui font d'Averroth, ils vivent bien, ils sont riches, ils font ce qu'ils veulent.
Je parle de lui. Je parle de...
Ils ont tout gagné. Comme...
Non, je ne parle pas de. Je ne parle pas de Yves.
Moi, c'est.
Je ne parle pas des gens qui font du ski. Je ne parle pas des gens qui font du ski, moi, je ne parle pas de ça.
Ah déjà
là. Ah, oh là là, j'ai raté une vanne. Une vanne.
Elle est.
Jamais on l'a fait dans la boîte comme ça. Dans la boîte. Hein? Oui, en fraise.
C'est pour homme.
Hein? Bon, j'ai rien dit. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez.
Bah, oui.
Magnéto même.
Bon, donc ça veut dire non, quoi? Dans les mots.
C'est bon, on a compris.
Vechen pareil. Vira va farad au boucha. Verroulé, Canada. Il disait la même chose. Quand on parle de crainte d'Akadosh Baruch Hu, on peut avoir la peur d'Akadosh Baruch Hu et on peut avoir honte d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la différence entre avoir peur de Dieu et avoir honte de Dieu? Ça change tout. Ça change tout. Quand j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle une crainte de bas niveau. J'ai peur. Bon, il flippe, il a peur, le Gainum, etc.
Bon. Il est puni.
D'accord.
Le peur du Gainum, c'est peur pour soi.
Ça change pas.
C'est pas peur d'Akadosh Baruch Hu.
D'accord. Même peur d'Akadosh. D'accord.
C'est autre chose.
Il a peur, non, peur. C'est ça. Il a peur de ça. Il a peur des conséquences. D'accord.
C'est
à peu près la même chose.
D'accord. C'est tellement abstrait que...
Il y a un niveau ici qui est encore plus fort. Écoutez bien. On a un niveau ici qui est encore plus fort. Ça s'appelle Boucha. C'est quoi Boucha? Boucha, c'est la honte. Ça aussi, pareil, c'est quelque chose qu'on avait étudié il y a 2 ans, dans le chapitre 29. On avait dit la chose suivante. Lorsqu'on est devant un grand sadique, d'accord? Et qu'on sait que c'est un scanner, quoi. Tu vois tout ce que tu as fait, etc. Tu te sens mal à l'aise, mais t'as pas peur. Il va pas te brûler, il va rien te faire. Il va pas te manger. Mais t'as honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de moi. J'ai honte qu'il me voit, je dis, mais attends, il voit, j'ai tout nu. D'accord? J'ai honte. C'est la même chose. C'est quoi la différence? C'est très simple. C'est que, on a, pareil, une crainte de bas niveau, et on a une crainte, il dit, etc., parce que bon,
il veut pas développer,
non, parce qu'on l'a, on a déjà appris dans le chapitre 29, d'accord? C'est que tu as la crainte et tu as la honte. C'est quoi la crainte? Bah, la crainte, celui qui a peur de Dieu. Finalement, quelqu'un qui naît dans une famille religieuse, ou bien avec le temps, dans la Torah, quand on nous parle de Kippour, etc., pense, avoir peur de Dieu, ça c'est, on te dit, voilà, attention, Yom a dit le jour du jugement, etc., on te fait peur, bon, c'est facile d'avoir peur. Peur, c'est facile. Mais honte, c'est beaucoup plus difficile. Quand la dernière fois qu'on a eu honte de nos avérotes, pas peur. Pas que j'ai peur que Dieu va me punir, que j'ai le guéinom et que j'allais avoir une bonne année, Shana Tova ou tout cas. Non. J'ai honte de mes avérotes. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que quand j'ai honte, ça veut dire quoi? C'est un niveau qui est beaucoup plus profond. Ça veut dire que je suis profondément dérangé. Bien sûr. C'est que je suis profondément dérangé.
C'est pas une forme de début de prise de conscience?
Bien sûr. C'est ça la différence. C'est que quand j'ai peur, ça ne veut pas dire forcément que j'ai pris conscience. Ça veut dire que par rapport à la situation donnée, j'ai peur. Bon, mais demain, j'aurai plus peur. Parce que c'est que la peur, par définition, elle va s'estomper.
Oui.
Mais la honte, quand on a honte de quelque chose et que j'ai profondément honte, ça ne me lâchera pas. J'ai honte.
C'est intériorisé.
D'accord? C'est intériorisé. C'est exactement ce qu'il veut expliquer ici l'Admor HaZaken. C'est ça. Pourquoi j'aime Hachem? Parce que c'est ma vie. Pourquoi j'ai peur de Dieu?
C'est la vie.
D'accord? Parce que c'est ma vie.
Non, c'est la vie.
Non, c'est ta vie, il dit. Chayira, ta vie. D'accord? C'est Moshe qui le dit. Ouais. Parce que Kiyu Chayira, parce que c'est ta vie. Parce que c'est pour... Donc j'ai honte. J'ai pas peur, j'ai honte. Ça change tout. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que, et c'est ça encore une fois, quelqu'un qui fait teshuva, hein, il ne peut pas faire teshuva parce qu'il a peur du gainom, etc. Bon, ça c'est une teshuva de bas niveau, ça. On parle d'avoir honte. Ça veut dire que la personne, il fait teshuva, il dit, mais j'ai honte de moi, comment j'ai pu faire ça? À la limite, personne le sait. Il va le dire à personne. Et il n'est pas dégoûté parce que il savait très bien que Dieu le savait. C'est pas pour ça qu'il est dégoûté. Il n'a pas peur du Gehinnom parce qu'il se dit que quand j'arriverai en haut, ouais, certainement Dieu me trouvera les circonstances atténuantes. Il n'est pas bête. D'accord, c'est très bien que Dieu. Que... C'est pas de ça qu'il a peur. C'est pas du din qu'il a peur. Il a honte. Il a honte de soi. Ça, c'est quelque chose que le Baal Shem Tov répétait souvent. Que quand on arrive un jour comme Rosh Hashanah Kippour, et quand on parle de Teshuva en général, il ne faut pas simplement réfléchir de manière froide, à réfléchir qu'est-ce que Dieu, comment Dieu me jugera le jour du grand jugement. Bon, comment Dieu te jugera? Bon, il... c'est possible que Dieu me fera la majorité, Dieu va juger dans la balance, il verra que j'ai majorité de mitzvot, il dira bon, Gan Eden. C'est pas ça ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que j'ai honte de mes avérot, je suis sale. De la même manière, quand on a une tache dans ses vêtements, tu arrives, même si la majorité de ton vêtement, il est propre. Bah, j'ai 10 vêtements, ils sont la majorité, ils sont propres. La petite tache, elle me dérange, je suis mal à l'aise. Pourquoi je suis mal? Parce qu'il y a une tache. Moi, c'est la même chose, on doit avoir une boucha. J'ai pas peur, on va rien faire, c'est pas parce que j'ai une tache qu'on va pas me bouffer, personne va rien faire. On va rien faire, personne va rien faire. Je vais pas perdre mon emploi à cause de ça. Mais j'ai honte de moi. C'est ça. Boucha, c'est ça. C'est que je réalise que c'est ma vie, et ça, c'est quelque chose de très 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 profond. Qui dit finalement Azaken. Azaï, à ce moment-là, Nikret a em revetset à la Ephrochim vechoulé. Dit l'Admor Azaken, à ce moment-là, lorsque la personne est arrivée à un niveau comme ça, c'est-à-dire que, c'est pas simplement qu'il a compris, c'est qu'il a compris à tel point que c'est quelque chose qui est profond, quelque chose qu'il a profondément compris. Comme on a expliqué ici, que j'ai compris que c'est ma vie et que ça ne me lâchera pas et que je dois garder ça jusqu'à la fin de mes jours. Et de la même manière, pourquoi c'est pas que j'ai peur de Dieu, je suis gêné de Dieu. Je dis, c'est pas possible, comment je peux être tellement sale, j'ai honte. Lorsqu'on arrive à un niveau comme ça, hein, là on peut dire que la mer, revêt cette à l'Ephrochim, que la mer, elle couvre les enfants. Là c'est un bon signe. Une fois qu'elle, ça veut dire que là, je dis pas que les enfants sont déjà cachers. Peut-être qu'il y a les enfants, voilà, les enfants c'est notre comportement. Je dis pas qu'on a un comportement qui est. Je dis pas qu'on a un comportement qui est entièrement cachère. Non. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que la source de mon comportement, elle est cachère. Donc c'est bon. C'est bon. On a déjà récupéré la source, on a déjà récupéré la base.
Donc alors, c'est très bien. Si t'es comme ça, pourquoi tu vas faire partir la mère de.
Pourquoi?
De sur le poussin alors.
Pourquoi pour... Je dis ça, non. Seconde.
Si t'es comme ça.
D'accord. Là pour l'instant on a expliqué c'est quoi VM revêtait à l'Ephrochim. D'accord. Alors, donc, là, de manière générale, d'accord, l'Admor HaZaken a expliqué, alors maintenant, justement, donc jusqu'à présent, l'Admor HaZaken a expliqué, donc si je peux résumer en un mot ce qu'on a expliqué, d'accord. Alors, si je peux résumer en un mot ce qu'on a expliqué, en un mot ce qu'on a expliqué, le chidouche de ce qu'on a expliqué aujourd'hui dans ce chapitre, jusqu'à dans les quelques lignes qu'on vient de dire, c'est que, c'est quoi la Teshuva Ila'a? La Teshuva Ila'a, c'est que je réalise que c'est ma vie. Et qu'il n'y a pas où aller, c'est ma vie, c'est moi. Et que c'est pas un comportement que j'ai décidé d'adopter. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que c'est pas simplement un comportement que j'ai décidé d'adopter. Un travail que j'ai décidé de faire. D'accord? Bon. Il y a des gens, par exemple, j'ai décidé pour les 10, 20 dernières années, ou jusqu'à la fin de mes jours, de travailler dans ça. Mais c'est pas moi. J'ai décidé de travailler dans ça. Donc je travaille dans un domaine précis, mais c'est pas moi. C'est pas ma vie. D'accord? Ça, c'est une teshuva de bas niveau. C'est une personne qui a décidé, elle dit bon, j'ai décidé que pour mon bien-être, il est bon pour moi que je fasse teshuva, que je me lance dans ça. C'est pour mon bien, je veux bien gagner. Voilà. Tu fais ça, tu vas bien gagner. Maintenant le gars il va faire docteur, il aime pas être docteur. Pourquoi il fait médecin? Parce que ça gagne bien. Pour l'argent. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui les jeunes ils font médecin, ils n'ont rien à faire de la médecine. Ils veulent gagner de l'argent, c'est tout. D'accord. Bon.
Il veut qu'il change de branche.
Il veut un.
Pour lui qu'il change de branche.
Non, pourquoi?
C'est un fait.
Si vous voulez l'oseille. Non, c'est bien comme.
C'est plus. Aujourd'hui, on fait plus médecine par idéologie. C'est fini. Aujourd'hui, on fait médecine pour gagner de l'argent.
La vocation.
C'est fini la vocation.
Mais s'il veut gagner des sous, il veut qu'il change de branche.
Non, pourquoi?
Tu connais la moitié des médecins, ils gagnent pas d'argent.
Ah oui.
Oui, mais ils veulent pas être médecin, ils veulent être dentiste.
L'autre moitié gagne pour les autres.
Il veut être chirurgien-dentiste.
Chirurgien-dentiste, parce que là, tu vends de l'or.
D'accord. Donc, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va expliquer ici. C'est quoi la différence entre, je veux qu'on comprenne bien ça. C'est quoi la différence entre Teshuva Tata'a et Teshuva Ila'a? C'est que Teshuva Tata'a, je décide d'adopter une route. Mais, ça veut pas dire que j'ai compris que cette route c'est ma vie. C'est moi. C'est mon identité, c'est moi. Non, ça non. Je suis pas arrivé à ça. Ça c'est Teshuva Tata'a. Teshuva Ila'a, c'est lorsque je comprends, mon comportement n'a pas forcément encore changé. J'ai pas encore changé. Mais j'ai percuté que ça doit être ma vie. Et que si je veux bien vivre, c'est ça ce que je dois faire. Ça c'est ma vie. Ça, c'est une teshuva ila.
Excuse-moi, bina, c'est discernement ou pas?
Non, c'est percuté.
On avait dit que...
Oui, ça peut être aussi... C'est dad, discernement. Dad.
Non, percuté, c'est... Dad, c'est la prise de conscience.
Non. Bina, c'est la compréhension dans les détails.
Voilà.
C'est percuté, je crois. Dad, c'est lorsqu'on va dire, on va être capable de discerner. Atachonen, la dame d'Arat, être capable de discerner entre différents détails, c'est-à-dire quand ça rentre en profondeur. Mais ce que je vais expliquer ici, encore une fois, c'est que c'est quoi le chidouche que je vais expliquer là de Morazaken, c'est que c'est quoi la Teshuvah Ila'a, et comment la Teshuvah Ila'a nous concerne dans la vie de tous les jours, c'est que faire Teshuvah, ça veut pas dire simplement décider d'adopter une voie. Non, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, j'avais une certaine voie. Jusqu'à présent, j'étais à gauche. J'ai décidé maintenant de prendre la voie de droite. Non, c'est pas ça, Teshuvah. La Teshuvah, il a, c'est plus fort que ça. C'est de comprendre que ça, c'est ma vie.
Ils sont là.
D'accord. Et avec ça, on comprend, hein, comment dans l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, hein, en un instant, il a fait Teshuvah. Alors qu'il n'a pas fait de mitzvot.
Il a réalisé.
D'accord, donc il n'a pas adopté de voie. Même s'il a décidé de bien se comporter, mais il n'a pas adopté de voie, il a rien fait. Il est mort sans faire de mitzvah, je ne sais même pas s'il a mis les tefilines. Je ne sais même pas, je ne nous raconte pas. Car c'est un bonhomme qui avait la tête complètement dans les femmes.
Mais c'est pas une Mishnah.
D'accord ? Il connaissait rien. Rien du tout.
On ne sait pas, on ne sait pas.
D'accord ? Non, non,
on ne connaît pas sa vie.
On sait qu'il ne connaissait rien du tout. C'était quelqu'un qui faisait rien.
Et combien de temps il a fait pour faire ses chevaux ? Il a mis du blanc.
Quelques minutes, certainement. D'accord.
Donc
ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on voit ici clairement, de manière très claire, que la Teshuvah Ila'a n'est pas liée au fait que je vais changer de voie, et n'est pas liée à une mitzvah concrète. Voir une personne comme Rabbi Eliezer ben Dourdaïa qui n'a fait aucune mitzvah dans les faits. Il voulait mettre les tefilines. Certainement qu'il n'a même pas mis les tefilines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'il a réalisé et qu'il a décidé que Dieu doit être sa vie, et que c'est là sa vie, c'est fini, il a eu la mer. Après, le reste, c'est des poussins.
On parle d'une crainte intellectuelle.
Le plus important, c'est ça. Tu comprends la différence? Alors que d'un autre côté, nous, on peut faire une teshuva de bas niveau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre tête, elle reste tordue, mais on va adopter une bonne voie. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà une teshuva, mais c'est une teshuva de bas niveau. La teshuva...
Si je peux me permettre, peut-être un élément dans l'histoire que tu n'as pas raconté, c'est que la femme, elle a eu, quand ils étaient ensemble, elle a fait un vent.
Oui.
Et ça l'a dégoûté.
Oui.
Ça l'a profondément dégoûté. Et c'est peut-être ça qui a provoqué chez lui, c'est ce dégoût de
bassesse,
ouais, de la femme et de tout ce qu'il a fait, et donc de tout ce qu'il a fait auparavant, qu'il a fait
monter. Bah, elle raconte que Rabbi Eliezer ben Dourdaïa l'a percuté quand elle lui a dit, il y a des gens qui peuvent pas faire ta choix. C'est ça qu'il a marqué.
Ouais, c'est ça qu'il a marqué.
Pas seulement ça, c'est que celle qui l'a aidé à faire la Vera, ça peut être les deux, hein.
Tu parles de...
C'est elle qui, ça veut dire que c'est la femme qui l'a aidé à faire la Avera, c'est elle qui lui dit, tu peux pas faire tes chouvas. Sans être méchante, je veux dire, elle voulait pas être méchante quand elle a dit ça, simplement, elle a dit...
Bon. Donc elle a vu son visage, elle a vu le dégoût que ça a provoqué chez lui, et c'est là où elle lui a dit ça.
Peut-être. Peut-être, bon, quoi qu'il en soit.
Parce qu'il a dû être dégoûté à un moment donné de
ce qu'il a fait. Pourquoi on l'appellera lui, du coup?
Qu'il a fait une teshuvah tellement extraordinaire qu'il est devenu ravi.
Et il a montré un enseignement. L'enseignement, il est proportionnel
au dégoût qu'il a.
En quelques minutes.
Ça veut dire qu'après ça.
C'est Logan Eden.
D'accord, mais il a vécu un moment.
Non,
il est mort.
Il est mort.
Il est mort de teshuvah.
Oui, mais il a parlé aux montagnes, il a parlé au soleil, il a parlé à je sais plus qui.
Oui, bon, après.
Tu veux parler aussi aux montagnes.
Vas-y, parle aux montagnes.
Tu veux parler aux montagnes.
Aidez-moi.
Voilà,
c'est extraordinaire.
C'est pas à tout le monde de parler aux montagnes.
C'est-à-dire qu'il était dans une autre planète à ce moment-là.
Il a vraiment.
Je pense pas.
On vient de te dire.
Je pense pas.
Bah si.
Il était marié, je pense pas.
Sinon, sa Teshuva n'aurait pas été acceptée là.
Je plains sa femme en tout cas. Enfin, pas maintenant, mais.
Sa Teshuva n'aurait pas été acceptée, je pense. Faut exagérer quand même.
Je plains sa femme.
T'as oublié toi, t'as oublié.
D'accord. Donc.
De quoi on parle? Mais vraiment, c'est une chou.
Donc, je suis en train d'expliquer ici, voilà. Donc, ce qui va expliquer ici l'Admor HaZaken, encore une fois, c'est que c'est ça la Teshuvah Ila'a. La Teshuvah Ila'a, ça ne veut pas dire que mon comportement a changé. Il va changer. Mais ça veut dire que la base, d'accord, c'est ce qu'on appelle Chochma Bina Da'at Chabad, ça veut dire que la base a changé. Et une fois que la base a changé, même si mon comportement va prendre du temps pour changer lui aussi, mais quand la base est bonne, on a tout gagné.
Pourquoi tu parles de Chochma Bina Da'at?
Parce que c'est ça.
Tu me parles de Bina, mais toi tu me parles de
Chochma. Parce que c'est la même chose. Parce que l'idée de Admor HaZaken, l'idée de Chabad, c'est que tout se passe dans la tête. Et que même si le comportement n'a pas encore changé, il finira par changer.
Fait, c'est théorique.
Ça veut dire qu'il y a un Rochma au départ?
Bien sûr, il y a toujours c'est un Rochma.
C'est quoi le Rochma dans ce cas-là?
Le Rochma, c'est la réflexion qu'il a eue. Toujours une réflexion.
La réflexion, c'est après.
Non.
Avant la réflexion qui se passe.
Toujours un flash.
Il y a un flash.
Mais après, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais?
Donc il y a un flash avant la réflexion.
Il y a toujours un flash. Mais qu'est-ce que j'en fais?
Voilà, c'est le développement de cette réflexion.
Par exemple, si on reprend l'exemple de Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, le flash, c'est lorsque cette femme lui a dit ça. Voilà, lorsque Strum le disait.
D'accord.
Il a eu un flash à ce moment-là.
Ça aurait pu rester qu'un flash. Il a eu un développement. De
mais après, à un certain moment, la Bina, c'est au moment quand il a essayé de s'isoler, d'essayer de réaliser, ben là, à ce moment-là, il a eu un Bina, mais à pleine puissance. Et ça n'est jamais parti.
Il a développé, voilà.
Il a perdu tous ses points. Mais il a gagné tous ses points d'un autre côté.
Il a tout gagné.
Alors, Diane Mourazaken, d'accord, il dit, iné. Alors là maintenant, là maintenant l'Admourazaken va expliquer comment ce niveau d'amour, ça c'est vraiment quelque chose qui peut nous concerner tous les jours.
Comment il peut savoir l'Admourazaken?
Ça c'est quelque chose qui ne correspond pas seulement à une personne qui fait une teshuva extraordinaire une fois dans la vie. Ça c'est quelque chose qui peut nous concerner dans la vie de tous les jours, de réaliser que Kadosh Baruch Hu c'est ma vie. Alors écoutez bien ce qu'il dit l'Admourazaken. Il dit, mais iné maintenant. Il va nous expliquer comment, progressivement, une fois qu'une personne a eu ce sentiment, comment ce sentiment que Dieu est
notre vie,
ma vie, d'accord, c'est ma vie, voilà, c'est ma vie, quand même. Mon amour, ma vie, d'accord,
Casanova, my brother,
my life,
my life,
d'accord, lorsqu'on a réalisé qu'Akadosh Baruch Hu, c'est my life, c'est ma vie, bon, alors, mais pour l'instant, mon comportement n'a pas encore changé. Ah, parce qu'après on veut... Ouais,
mais notre
alors, maintenant, la Admourazaken va expliquer, on va voir comment progressivement tout va changer. Comment si la tête est saine, tout va changer.
Alors là...
D'accord ? Écoutez bien, accrochez-vous. Veine. Icar à Ava. L'essentiel de l'amour.
D'accord, c'est important.
D'accord ? Et on va prendre des notions physiques. Et pour comprendre comment ça se passe spirituellement. Veine. Donc, Icar à Ava. L'essentiel de l'amour. C'est quoi l'essentiel de l'amour ? Comment deux personnes s'aiment ? Ou idabkut rucha berucha. L'essentiel de l'amour, c'est quand un esprit va s'attacher à un autre esprit.
Contre deux esprits.
Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que quand deux esprits sont, c'est de la poésie.
Hein?
Alors,
ce que je veux dire,
on l'a pas encore dit. Alors, c'est quoi idabkut rucha berucha? Qu'un esprit s'attache avec un autre. Écoutez bien. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que finalement. Le fait qu'on va matérialiser l'amour, d'accord, par des actes physiques, c'est seulement pour essayer de matérialiser un sentiment très profond qu'on a. Mais c'est pour ça que, avec ça, on va comprendre que finalement, un amour qui est très profond n'a pas forcément besoin d'être matérialisé par un acte. Encore une fois, je répète. Le plus important quand on aime quelqu'un n'est pas le physique. C'est quoi? C'est Rucha Berucha. C'est l'esprit. D'accord? Et quand on a deux personnes qui vont s'attacher, qu'est-ce qui va s'attacher réellement? Qu'est-ce qui va se coller l'un avec l'autre? C'est idabkut rucha berucha. C'est quand l'esprit de l'un va s'attacher avec l'esprit de l'autre. Alors, rucha, ça veut dire l'esprit, mais ça veut dire aussi le vent, l'air. D'accord? C'est pour ça que le dit le Zohar. C'est pour ça que le dit le Zohar. Non, lorsque deux personnes, là, c'est bien. C'est le Zohar qui le dit. D'accord? Lorsque deux personnes vont s'embrasser, d'accord? Et par la bouche, c'est le Zohar qui dit, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y a le souffle de l'un qui va aller vers le souffle de l'autre. D'accord? La mauvaise haleine, qu'est-ce qui va me sortir, hein? Bon. D'accord? Que moi, je sais comme c'est écrit, en Shir HaShirim, Ishakeni, Minshikot, Pihu, Vechoulé, etc. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Shir HaShirim? Il dit que Dieu va m'embrasser avec le baiser de sa bouche. C'est quoi le baiser de la bouche de Kadosh Baruch Hu? Ah, c'est un peu cru ce soir, hein, pensez. Mais c'est Dieu qui, d'accord? C'est le lien qu'il y a avec Kadosh Baruch Hu, Shir HaShirim. C'est quoi ça veut dire quoi? Parce que là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ça, c'est l'amour le plus fort. C'est pas simplement un amour de deux personnes qui s'aiment, bon, enfin, qui s'aiment et qui, c'est-à-dire qui vont se comporter comme des gens qui s'aiment. C'est un amour de deux personnes qui s'aiment profondément et qui vont échanger, d'accord? Qui vont échanger
le plus profond
d'eux-mêmes. Que leurs esprits vont s'attacher. Que lorsque deux esprits se rencontrent. D'accord? Et ça, c'est le niveau le plus fort de l'amour. Et c'est la même chose quand on parle de l'amour qu'il y a entre un juif et Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le niveau le plus fort de l'amour entre un juif et Akadosh Baruch Hu? C'est quand l'esprit de Dieu et mon esprit se rencontrent. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est pas quand je décide de l'écouter. Il y a un qui dit, bon, j'ai décidé dorénavant, j'écoute ma femme. Il écoute sa femme. Bon, c'est pas mal.
Je connais.
J'ai pas mal. D'accord? Dorénavant, il y a ces domaines, il y a mes domaines, tu m'écoutes sur ça, je t'écoute sur ça, d'accord? Statu quo, d'accord? Ça veut dire que, chacun sa zone, ça c'est ta zone, ça c'est ma zone, d'accord? Et là c'est la zone libre.
Connecté.
Bon, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut, tu me prends pas la tête ici, je te prends pas la tête ici, on s'arrange. Ça c'est des chevaux de bas niveau. Bon, c'est chevaux de bas niveau, c'est-à-dire que concrètement, on sait pas, on s'accroche pas, on s'entend, d'accord, tout va bien, Baruch Hashem.
Tant que l'autre, il va pas s'empiéter sur
la rivière, la marmite et le...
Teshuva de haut niveau, c'est quoi? C'est quoi la Teshuva de haut niveau? Teshuva de haut niveau, c'est quand les esprits se rencontrent.
Relis-le.
Ça veut dire quoi les esprits se rencontrent? Ça veut dire quoi les esprits se rencontrent, messieurs? D'accord? C'est que quand l'esprit d'Akadosh Baruch Hu et mon esprit vont se rencontrer, qu'on va échanger le même air.
C'est Dieu qui décide.
Non, c'est moi qui décide. Puis le contraire. Je décide de partager, c'est quoi le baiser avec Akadosh Baruch Hu? Excusez-moi. C'est que je décide de partager le même air avec Akadosh Baruch Hu. Ton air sera le mien, mon air sera le tien.
Ah oui.
Ta vie sera la mienne, ma vie sera la tienne.
Comme Ruth avec sa belle-mère.
D'accord, oui. Ça, c'est tes choix-là. J'ai pas dit que le comportement, j'ai pas dit que toute la vie a changé. J'ai pas dit ça. Mais quand j'ai réalisé, quand j'ai décidé que ma vie sera la tienne, ta vie sera la mienne, mon souffle sera le tien, ton souffle sera le mien, là, on vient d'avoir une teshuva ilaha, une teshuva de haut niveau. Et ça, nous dit Admor HaZaken, c'est ça, ikar ahava. C'est ça, l'essentiel de l'amour. L'essentiel de l'amour. Ça veut dire que quand on veut aimer quelqu'un, la manière la plus forte d'aimer une personne, c'est quoi? C'est quand les esprits vont s'attacher. Ça veut dire, par exemple, on peut aimer quelqu'un en étudiant avec lui, en partageant une idée avec lui. Pourquoi? Parce que quand tu vas partager une idée avec lui, c'est les esprits qui vont s'attacher. Et ça, c'est l'amour le plus fort qui puisse exister. Il n'y a rien de plus fort que ça. Quand deux esprits s'attachent, c'est ce qu'il y a de plus fort qui puisse exister. C'est l'échange. C'est deux esprits qui se rencontrent. Valze Nema, et sur ça, c'est écrit dans le schéma, Uvechol Nafshecha. Ça veut dire quoi quand on dit tu aimeras Dieu de toute ton âme?
De tout ton souffle, de ton être.
Ça veut dire quoi de toute ton âme? De ton âme. Ça veut dire quoi de toute ton âme? Ça veut dire quoi quand tu dis je t'aime de tout mon cœur? Hein? Tu as réfléchi à ça?
Oui, non, mais...
Je t'aime de tout cœur. De tout cœur avec vous. Pourquoi de tout cœur? Pourquoi on peut avoir moitié du cœur?
Ah, et tu veux dire...
Comme... Le cœur y est baladé.
Hein? Ça veut dire que... Pourquoi de tout cœur? D'accord? Pourquoi de tout cœur? Oui, j'ai compris, mais pourquoi de tout cœur? On peut avoir la moitié du cœur?
Oui, c'est pas vrai.
Quoi? On peut avoir la moitié du cœur? Comment ça marche? Écoutez-moi ce que c'est le brosse de cœur. Il dit... Shehem hem... Kol chelke an nefesh... Sechel... ou midot, ou le vouchem, marshava, dibour, ou marasé.
Les trois vêtements.
Il dit, c'est très simple. Il dit, une fois que j'ai décidé de partager le même air, Akadosh Baruch Hu, que j'ai décidé que sa vie sera la mienne, et que ma vie sera la sienne, ben, automatiquement, c'est pas simplement une partie de ma vie que je donne à Akadosh Baruch Hu, c'est tout que je donne à Akadosh Baruch Hu. Je donne ma réflexion. Je donne mon comportement. Je donne mes pensées. Je donne ma parole. Je donne mes actes. J'ai pas dit que je suis déjà clean à ce moment-là. Attention. J'ai pas dit que ma vie a déjà changé, que tous les poussins sont déjà cachés. J'ai pas dit ça. Mais une fois que j'ai décidé que toute ma vie doit changer, et que j'ai pas de jardin secret qui n'appartient pas à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de... C'est pas je rentre chez moi, ça n'appartient pas à Dieu. Tout appartient à Dieu. Sauf que pour ça, je suis pas encore prêt. Bon. Mais tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ma réflexion, mes midotes, ma pensée, ma parole, mon action, tout est... Je partage le même air que Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Bechol Nafshecha. Tout ton âme. C'est quoi Bechol Nafshecha? Bechol Nafshecha, explique l'Admor HaZaken, c'est toutes les parties de l'âme. On sait très bien ce qu'on a expliqué, il me semble qu'on a expliqué ça il y a trois semaines. Que dans l'âme, nous, quand on entend l'âme, en général, on dit qu'on croit que l'âme, bon, c'est l'âme, c'est le Yeter Tov, c'est le bon penchant, c'est celui qui veut faire des mitzvot. Mais l'âme, c'est pas que ça. L'âme, c'est également synonyme de vitalité. Et qui dit vitalité, dit qu'on a une partie de vitalité qui est dédiée à chaque partie de notre corps. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vitalité qui est dédiée à la pensée, une partie à la parole, une partie à l'action, une partie à la pensée, une partie à l'envie d'aimer, une partie à l'envie de détester. Le fait que j'aime quelque chose, pourquoi j'aime? D'où vient ce sentiment? C'est une partie de la neshama. D'accord? C'est une parcelle de la neshama. D'accord? C'est-à-dire que la neshama, c'est comme un arbre. Comme un arbre, qu'il y a une racine, mais après, on aura toutes sortes de branches. On aura l'amour, la crainte, on aura toutes sortes de branches. La pensée, la parole, l'action. Et quand je décide de donner à Kadosh Baruch Hu Bechol Nafshecha, de tout mon âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'attaque à la racine. Je dis, je donne la racine à Kadosh Baruch Hu. Une fois que j'ai donné la racine à Kadosh Baruch Hu, c'est tout qui va suivre. Bechol Nafshecha, c'est toutes les parcelles de ma Neshama, ça veut dire toutes les dérivées de la Neshama. Donc tout est là. La pensée, tout ce qui est lié à la vitalité, tout ce qui fait qu'un homme vivant est vivant. Tout ce qui fait la différence entre un homme vivant et un homme mort. Qu'est-ce qui fait différence entre un homme mort? Bah, la pensée, la parole, l'action, les sentiments, la réflexion, tout ce qui fait la différence entre un homme vivant et un homme mort est lié directement à la Neshama. C'est ça la vitalité. Donc tout est là. Tout est là. Tout est lié à la Neshama. Lorsqu'on nous dit dans le Kriyat Shema que Bechol Nafshecha, qu'on devrait aimer à Kadosh Baruch Hu Bechol Nafshecha, et que Rabbi Akiva dit, ça veut dire quoi Bechol Nafshecha? Ça veut dire Afilu, Hu Notel Et Nafshecha. Que même si Kadosh Baruch Hu voudra te prendre ton âme, ça veut dire que pour le servir, tu devras te laisser tuer. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que, une fois que j'ai compris que je donne la branche de base, bah du coup, mon corps n'a plus aucune valeur. La seule valeur qu'il a, c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Donc si pour un Kadosh Baruch Hu, je vous donne ma vie, j'ai pas peur de le faire. C'est ça, Bechol Nafshecha. C'est encore plus fort que Bechol Levavecha. Ça veut dire comme ça. C'est quoi la différence entre Bechol Levavecha et Bechol Nafshecha? Bechol Levavecha, c'est le tout ton cœur. C'est-à-dire quoi le tout ton cœur? Aimer Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que ma tête, elle peut être tordue. Mais mon comportement, j'ai décidé qu'il va être cachère. Ça, c'est une teshuvah en expliqué de bas niveau. Mais quoi, la phrase, c'est bon.
Tout ce que tu dis, d'accord, pourquoi on accorde encore une importance au corps une fois que la neshama
justement est partie? Parce que concrètement, dans la vie de tous les jours, Dieu nous demande de faire attention aux actes. Donc, au cœur. Donc, aux actes, à l'action. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous demande un niveau encore plus fort que ça. Bechol Nafshecha. Bechol Nafshecha, c'est pas seulement au niveau du comportement. Au niveau de la source du comportement. Au niveau de la source de tout. Au niveau de la source de l'homme. Ça, c'est lié à la volonté. C'est écrit que Nefesh, c'est lié à la volonté. C'est le Ratson. Nefesh et Ratson. Nafsho, Zehu, Retsono. La chose la plus forte qui existe chez l'homme, c'est la volonté. Il n'y a rien plus haut que la volonté. La volonté, c'est elle qui va diriger la réflexion, celle qui va diriger les sentiments, celle qui va diriger la pensée, celle qui va diriger la parole, celle qui va diriger l'action. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est le tronc. La volonté, c'est la racine. Et lorsque dans la volonté a changé de cap, et que jusqu'à présent, je voulais des bêtises, et que maintenant, j'ai décidé de vouloir des bonnes choses, que la volonté maintenant, je veux des bonnes choses, c'est fini, le reste suivra. C'est ce qui s'est passé chez Rabbi Elazar ben Dourdeïa. Sa volonté a changé de cap. Il a fait teshuva, il est accepté au Gan Eden.
Sa volonté, c'est une partie de son neshama.
Bien sûr. Bien sûr. Après, le reste, tout le reste, après le fait que j'ai une pensée, tout le reste, tout ce qui est lié à la vitalité d'une personne, c'est directement lié, c'est des choses qui sont dérivées de la volonté de la personne, donc ils sont dérivés de la neshama de la personne. Bechol nafshecha, ça veut dire quoi? Bechol nafshecha, le targum il traduit, bechol nafshecha, ça veut dire quoi? Toute ta volonté. Parce que la volonté, c'est le nefesh. C'est l'âme. Donc ici, c'est même plus une question de réflexion, c'est encore plus fort que la réflexion. C'est une question de volonté. Créer une volonté, que la volonté doit changer de cap. Une fois que ma volonté a changé de cap et que j'ai décidé que maintenant c'est plus ça que je veux, c'est ça que je veux, j'ai pas encore dit que je ne suis pas arrivé encore. C'est fini, j'ai déjà fait une teshuva ilaha.
Pensez que dans le schéma, alors on commence par les vavra, nafshera.
Parce que c'est un niveau très dur à arriver, ça, on n'y arrive pas comme ça.
Non mais après, meodera,
bien sûr,
c'est tout est moyen. Comment ça vient après nafshera, c'est pas logique.
Oui.
Alors c'est le mode crescendo normalement.
De tout ton cœur, de tout ton âme.
Toi, de tout ton cœur, on dit, tu vois, encore plus profond que le cœur. Nafshecha, donc ta volonté.
Ensuite, oui.
Ensuite, de tous tes moyens.
Oui.
Alors, en quoi c'est plus grand, tous tes moyens, que, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas logique, là.
Est-ce que c'est un crescendo?
Ouais.
J'ai compris. Je sais pas, il faut voir.
Les moyens qui m'ont amené au but.
Parce que toi, ça, ce que tu dis là, quand on fait le schéma, on peut avoir la cavale en mettant là-dessus.
Peut-être.
Quoi, tu l'as pas encore? Je pense que...
Pour les vafras, ça fait naître la réflexion.
Je pense comme ça. Je pense
que... Les vafras, ça fait naître la réflexion, la réflexion fait l'année schéma, les schémas...
On ne te demande pas d'avoir la cavale.
Je pense que la différence entre Nafshecha, j'entends tout ce qu'il dit, je pense que la différence qu'il y a entre Nafshecha et Meodecha, c'est que Nafshecha, c'est en ce qui me concerne, et Meodecha, c'est en ce qui concerne mon entourage.
En particulier,
exactement, ma femme et mes enfants. C'est-à-dire, Meodecha, c'est mon patrimoine.
Plus dur encore.
Mon patrimoine, c'est-à-dire mon patrimoine financier, mon patrimoine familial, mon patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui m'entoure. Et c'est encore plus dur.
C'est mettre d'accord en application.
C'est plus dur. Quoi.
C'est très très dur.
De pouvoir se détacher de sa femme et ses enfants.
Non, c'est pas de se détacher. C'est d'aimer Dieu avec sa femme et ses enfants. Attention.
C'est le remettre au niveau de ton concept matériel.
Au point d'accepter leur disparition, je crois, Meodecha.
Non, c'est Bechol Meodecha, ça veut dire au point d'accepter leur disparition, mais ça veut dire que d'aimer Akadosh Baruch Hu avec sa femme et ses enfants.
Abraham, avec nous avec la Akadat Yitzhak, il a aimé de tous ses moyens.
Oui, il a aimé de tous ses moyens.
C'est de ça dont
donc il a aimé avec son fils.
Oui.
Il a été prêt à sacrifier son fils.
Voilà.
C'est ça? Bechol Meodecha.
C'est le plus dur.
Et donc ça...
Donc ça s'explique alors cet ordre.
Ce crescendo.
Peut-être. Peut-être. Hein, je... Non, je... C'est Comme ça, ça fait une idée. Alors, Dehaïnou, ça veut dire... Et là, maintenant, vous allez voir qu'on va comprendre beaucoup de choses que la Gemara nous dit. Vous avez dans les mots... Maintenant qu'on a compris ce concept, que c'est que finalement, ça veut dire quoi? Excusez-moi du terme, faire l'amour avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on respire le même air, qu'on partage. On partage la même chose, que ma volonté sera la sienne et que sa volonté sera la mienne. Et que j'ai décidé que, qu'est-ce que j'aurais envie? J'aurais envie uniquement ce que Dieu a envie. C'est ça, finalement. Donc, ma volonté sera la volonté de Dieu. On devient?
L'ombre, comme l'ombre.
C'est pas l'ombre, c'est que je deviens partie intégrante d'Akadosh. Je décide que ma volonté sera la volonté de Dieu. D'accord? L'ombre, il me fait la poser lui aussi. Alors, Dainu, ça veut dire, un midot, de midota vidparech mahu rachum. La Gemara nous dit la chose suivante, la Gemara dans le traité Yerushalmi, Yerushalmi dans le traité PA, nous dit la chose suivante, elle nous dit, c'est écrit, ou le dof kabo, qu'on doit se coller à Dieu. Encore une fois, se coller. Donc coller, c'est faire l'amour. D'accord? Alors, la Gemara, elle a dit, elle dit, mais comment je peux me coller à Kadosh Baruch Hu? La Gemara dit comme ça. Elle dit, mahu rachum, afata rachum. De la même manière que Dieu est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Mais quel rapport? Parce que lui, il est miséricordieux, je dois être miséricordieux. C'est là, avec ce que le Mordecai a expliqué, on comprend parfaitement. Ça veut dire quoi? Que de la même manière que Dieu est miséricordieux, toi est miséricordieux, ça veut dire que la volonté de Dieu doit devenir ma volonté. Donc si Dieu est miséricordieux, moi aussi je dois être miséricordieux. Si Dieu est gentil, moi aussi je dois être gentil. Si Dieu veut ça, moi aussi je dois vouloir faire ça. D'accord? Parce que, pas seulement on est créé à son image, parce que j'ai décidé que sa volonté sera la mienne. Ta volonté sera la mienne. C'est plus fort. C'est le plus fort possible.
Voilà.
D'accord.
C'est la notion de
le partage des volontés.
C'est le sens.
C'est encore plus fort que Merkava.
Plus fort que Merkava.
Oui, c'est plus fort que Merkava encore. Parce que là, c'est pas simplement que je m'annule devant Dieu. C'est que je décide avec toute ma réflexion que ta volonté sera la mienne. Je sais pas comment t'expliquer. C'est qu'on il y a un partage ici.
Oui, mais pour arriver à ça, faut s'annuler.
Oui.
Oui, il y a une notion d'annulation.
Une notion d'annulation.
Excuse-moi, s'il y a une nation d'annulation, il n'y a pas
de ratson. Pas dans le sens négatif du terme.
Il n'y a pas de ratson.
Mais si. Ah, ton ratson, c'est de vouloir t'annuler.
C'est
ton ratson.
Il y a pas de si tu t'annules, tu n'as pas de volonté.
Mais si, c'est ça ta volonté.
C'est ma volonté.
C'est t'annuler.
Ma volonté, c'est m'annuler.
Bon, c'est niveau, c'est ça. Non, c'est pas une autre
la volonté, c'est d'avoir sa volonté.
Non.
Donc j'ai une volonté qui est propre.
Ma volonté, c'est d'avoir la même volonté que lui. Donc j'ai une volonté de m'annuler.
C'est comme une volonté.
Une volonté de m'annuler, c'est une volonté.
Bien sûr. C'est extraordinaire comment il te dit. Il dit, de la même manière, ce juif-là, Baruch Hashem, celui qui a eu ce sentiment-là, de vouloir partager le même air qu'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Lorsqu'il étudie la Torah, il n'est pas en train simplement d'étudier un mode d'emploi. Il est en train d'étudier la Torah de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est pas simplement qu'il étudie la Torah de Dieu. C'est qu'il partage le même air qu'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lui, quand il étudie la Torah, il est en train de s'étudier à soi-même en vérité. C'est ça. Il est en train de s'étudier soi-même, de s'étudier sa vie. Et c'est le sentiment qu'il a. Il a le sentiment qu'il est en train de s'étudier à soi-même. Extraordinaire comme sentiment. Ça veut dire que le chidouj, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que la teshuvah ilaha, c'est quand on a intériorisé Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu n'est plus quelque chose d'extérieur. Ça fait partie de la vie. Quand j'étudie la Torah, je m'étudie, ça m'intéresse, c'est moi. C'est moi. C'est pas quelque chose d'externe que j'étudie, que des fois ça m'intéresse, des fois ça m'intéresse pas. Non, ça fait partie de ma vie, c'est moi. Vechen, pareil. Amarshava, bemarshavto idbarer. D'accord? Alors. C'est quoi la différence ici entre Sechel et Marshava? C'est très simple, c'est que quand on étudie la Torah, on a deux catégories d'études. On a l'étude les Iyun et l'étude les Girsa. C'est quoi la différence? L'étude les Iyun, c'est quand on étudie de manière profonde, de manière approfondie. C'est-à-dire que là, c'est comme si je suis en train de m'approfondir moi-même. Et c'est quoi la Marshava? Marshava, c'est quand on va étudier des choses qui sont plus basiques, comme la Halakha, comme des choses qui sont plus basiques, qui sont plus faciles. Ben, c'est de la même manière. C'est que quand je vais étudier la halakha, je suis en train d'étudier quelque chose qui me concerne, c'est ma vie. C'est comme si un businessman qui est en train d'étudier son plan. Il a créé un plan, il a construit un magasin, il reprend le business plan, il le relie. Mais il kiffe. C'est sur mon plan, c'est moi. C'est pas quelque chose qui appartient à une autre personne. C'est moi, c'est chez moi ici. C'est autre chose. Il est chez lui à la maison. Il n'est pas en train d'étudier quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas le choix, il suit un mode d'emploi, c'est de prendre la tête jusqu'à 120 ans, il doit se prendre la tête, sinon il va se taper un galénum sur la tête. Non, je suis chez moi, je kiffe. D'accord. Ve'adibour, bidvar Hashem zo halacha. De la même manière, lorsqu'il parle, Bidvar Hashem, Zohalacha, ça veut dire que il va réfléchir profondément. D'accord? Il va réfléchir aussi de manière moins profonde, dans des choses qui sont moins profondes. Et de manière, il va parler des halachot. Comment chacun trouve comme c'est écrit? Va asim dvaray befira. Qu'est-ce que Dieu il dit? Je vais m'arrêter ici. Dieu il dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Extraordinaire. Oui, mais comment nous on n'est pas Moshé? Ça veut dire que je mettrai ma parole dans ta bouche. Ça c'est la teshuvah là.
C'est l'expression.
C'est lorsque j'étudie la Torah et que la Torah c'est ma vie.
Je deviens l'expression.
C'est moi, c'est ma vie, je kiffe. Et ben je deviens l'expression d'Akadosh Baruch Hu. On partage le même souffle. Udvaray, Asher Famti Befira, ça vous dit quelque chose? Udvaray, Asher Famti Befira, Loemo Shu Befira, Wipi Zaracha. Alors, on va traduire. D'accord? Udvaray, Asher Famti Befira. Udvaray, Asher Famti Befira. Mes paroles que j'ai mis dans ta bouche. Dieu nous met les paroles dans la bouche. Ça veut dire qu'on partage le même air. Exactement, c'est encore la même chose. D'accord? Je vais m'arrêter ici, parce qu'après, la semaine prochaine, on va expliquer comment la Mourazaka, elle va expliquer comment on va retrouver, comment on peut partager le même air avec Akadosh Baruch Hu dans la pensée, la parole et l'action. D'accord? Maintenant, on va expliquer de manière générale. Partager le même air, ça veut dire vouloir les mêmes choses. Avoir les mêmes intérêts. Mais après, il va rentrer plus dans les détails. D'accord? Ah oui. Mais là, on comprend que c'est un autre calibre, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que, la personne, c'est pas simplement que quand il va arriver au Rosh Hashanah, il va être triste parce que c'est l'homme Adin, etc. C'est autre chose. C'est qu'il est en train de vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est que qu'est-ce qu'il fait vibrer, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui l'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui l'intéresse, c'est Torah Mitzvot. C'est ça son tronc. C'est ça sa volonté. C'est ça ce qu'il donne envie de vivre. C'est ça ce qu'il fait kiffer. Quand il se réveille le matin, d'accord? Et il se dit, aujourd'hui, j'aurai une super journée? Bah parce que justement, c'est quoi son tronc? C'est quoi sa base? C'est qu'il dit, aujourd'hui, je vais avoir une journée de Torah. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que les racines sont bonnes. Je ne dis pas, pardon, que les branches sont bonnes. Les branches ne sont pas forcément encore bonnes. Il n'y a peut-être pas de branches encore. Et que les branches qui sont là sont mauvaises. D'accord? Il n'y a pas encore de branches. Mais par contre, ce qui est clair, c'est quoi? C'est que la racine est bonne. Si la racine est bonne, le reste suivra. D'accord? Ça, c'est en deux mots ce qu'on explique aujourd'hui. Mais Ezrat Hashem, la semaine prochaine, il rentrera encore plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être amoureux de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire partager le même air que Dieu? Il va expliquer en détail. En détail dans les mots. D'accord? Il va expliquer en détail dans les mots. Ça veut dire qu'est-ce que c'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu, l'action de... Comment on partage la même action avec Akadosh Baruch Hu? Et il va expliquer comment certaines avérotes, notamment les avérotes sont liées à la chair, comment c'est des avérotes qui vont toucher particulièrement à ce lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Ça on verra la semaine prochaine, vous en tâchez. D'accord? Voilà.
Juste pour finir, le fait qu'on doit écarter la même...
voltige.
On n'a pas encore vu ça.
On va le voir.
D'accord, on s'arrête là.
Normalement, il faut aller faire ça.